Côté Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. L'épidémie de choléra qui sévit depuis la mi-octobre en Haïti a déjà fait plus de 1500 morts. 66 000 personnes ont été contaminées, dont près de la moitié ont nécessité une hospitalisation. Cette épidémie a provoqué des violences la semaine dernière à l'encontre des casques bleus de l'ONU et malgré cela, les autorités ont souhaité maintenir la date des élections législatives et présidentielles qui, je vous le rappelle, va se dérouler dans deux jours, dimanche. Le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, la République démocratique du Congo sont également touchés par des épidémies de choléra. Et je vous propose donc aujourd'hui dans Priorité Santé de mieux comprendre cette maladie, quels sont les moyens de prévention, comment éviter la propagation de l'épidémie, quels sont les traitements. C'est ce que nous allons voir avec mes deux invités, le docteur Stéphane Jorey Guibéry du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et le docteur Brigitte Vassé qui est directrice médicale adjointe de MSF Médecins Sans Frontières. Et si vous souhaitez participer, poser des questions, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone Nerline qui travaille à Grand Ravine, bidonville de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Nous aurons aussi au téléphone Frédéric Pénard, responsable du desk urgence de Médecins du Monde. Et on terminera en parlant du 4e congrès Route et Médecine 2010 qui se termine aujourd'hui à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Docteur Stéphane Jorey Guibéry et docteur Brigitte Vassé, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là, je dirais, pour faire un peu de la pédagogie, nous expliquer vraiment ce qu'est cette maladie. Et alors justement, je vous donnerai d'abord la parole, docteur Jorey Guibéry. C'est quoi exactement le choléra ?
Le choléra, c'est une maladie bactérienne. Déjà, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un virus ou d'un parasite, mais vraiment d'une bactérie, donc sensible aux antibiotiques, on y reviendra sans doute. Et essentiellement, c'est une bactérie qui donne, en fait, pour certains d'entre elles, le choléra, la maladie, le choléra, et qui s'exprime essentiellement par des diarrhées et une déshydratation massive qui peut amener à la mort.
Et comment on contracte le choléra ?
Alors, c'est une maladie du péril fécal, ce qu'on appelle le péril fécal, c'est-à-dire vraiment la maladie qui contamine les eaux ou l'alimentation lorsque les mesures d'hygiène et d'assainissement des eaux ne sont pas optimales, on va dire. Cette bactérie se met dans l'eau et les aliments et les gens peuvent contracter en avalant.
Docteur Brigitte Vassé, c'est une maladie très contagieuse.
C'est une maladie contagieuse parce que c'est par les mains sales, par l'eau sale, par les aliments souillés par cette eau-là. Mais c'est une maladie facile à traiter. Donc c'est ça aussi que...
Le message
c'est
que vous
grave,
voulez faire passer.
Mmh. Hein, si on ne réagit pas assez tôt, on peut en mourir, mais on va dire 4 sur 100 personnes qui ont le choléra, la maladie choléra, on peut en sauver 98. Hein. Donc c'est simple à traiter, c'est pour ça que c'est un peu rageant de voir que ça s'accélère pas en Haïti, la prise en charge de cette maladie.
Et ça c'est important, vous voulez insister sur le fait que ça se soigne, et
oui.
Vous dites, vous, dans 98% des cas.
Ça se soigne facilement, c'est pas cher, c'est pas compliqué, quand on l'apprend au tout début. Donc l'important, c'est au tout début, qu'on a les premiers signes, de pouvoir avoir accès rapidement à ce traitement simple, qui est de l'eau propre, dans lequel on met un petit sachet de sel de réhydratation. Et ça, ça évite que les gens se déshydratent et soient hospitalisés.
Parce que, docteur Jorey Guibéry, le principal danger, c'est la déshydratation.
Absolument. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près 9 personnes sur 10 ne vont pas faire la maladie. Une personne sur 10 va faire la maladie. Et sur ces 10% de malades, à peu près 10% d'entre eux vont faire les formes les plus graves de choléra avec déshydratation massive nécessitant réhydratation par voie intraveineuse. Mais l'essentiel des cas de choléra peut tout à fait se résumer à une petite diarrhée, quelques vomissements ou des symptômes assez modérés qui peuvent passer sous traitement de réhydratation orale pour ceux qui ne vomissent pas. Et par contre, on réserve les formes, le traitement intraveineux pour les gens qui effectivement ne peuvent pas boire.
Mais ce qui est important, c'est de se réhydrater et avec de l'eau potable. C'est bien ça.
Absolument, de l'eau potable, oui.
Priorité santé, Claire Hédon.
Nous avons au téléphone Nerline Naguère, qui est volontaire dans le mouvement ATD Carmonde. Elle travaille dans le bidonville de Grand Ravine, à Port-au-Prince, en Haïti. Nerline, bonjour.
Bonjour, Claire Hédon.
Êtes-vous déjà confrontée donc à des cas de choléra dans ce bidonville de Grand Ravine ?
Oui, bon, dans la zone de Grand Ravine, et pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui avaient le choléra. parmi les gens qu'on connaît, il y a deux personnes qui sont mortes, mais peut-être il y en a plus. Mais on n'a pas vraiment la cause parce qu'il y a l'insécurité. On suppose que c'est parce que la personne ne pouvait pas sortir le soir pour se rendre à l'hôpital. Il y a une maman qui avait ses deux enfants qui avaient le choléra. Quand elle appelait au secours, et quelqu'un dans le voisinage a apporté un paquet de sérum oral, elle a préparé dans la nuit pour ses enfants, et le lendemain matin de très tôt, elles sont parties pour aller à l'hôpital. Et maintenant, ses deux enfants sont en vie, et elle est là à conseiller les autres parents qui ont des enfants qui sont malades, les aider à les emmener à l'hôpital. Il y a aussi un jeune homme qui avait le choléra, et quand il avait la diarrhée, il croyait que c'était une diarrhée très simple, mais quand il voit que ça continue, et il a dit à sa maman et à toute sa famille, eh bien, on va me voir à l'hôpital, j'allais à Médecins Sans Frontières. On a constaté que c'était le choléra qu'ils avaient.
Nerline, vous nous avez dit, on l'a bien compris, en cas de choléra, il faut réagir vite, aller, entre autres avec des enfants, aller vite à l'hôpital, mais apparemment c'est difficile la nuit à cause de l'insécurité, à cause des violences.
Oui, oui. Parce que pour le moment, il y a des conflits entre les groupes dans le quartier. C'est un peu difficile pour les gens de sortir un peu tard. Et des fois, même la journée, c'est aussi difficile. Mais on fait des formations avec les gens qu'on connaisse qui sont dans le quartier pour aider les gens à faire soit du sérum oral ou soit du sérum lacaille avec de quoi ils en ont. Et s'ils n'ont pas de quoi vous faire le sérum oral ou sérum lacaille, on les explique de donner de l'eau à la personne pour que la personne ne se déshydrate pas totalement.
Nerline, mais vous m'avez dit que certains des patients vont se faire soigner, vont à l'hôpital de MSF, mais pour être venu vous voir en reportage au mois de mai quand j'étais en Haïti, le quartier de Grand Ravine, si je ne me trompe, est assez éloigné de l'hôpital de MSF. Donc comment font les habitants de Grand Ravine pour se rendre dans cet hôpital?
C'est vraiment la colline de côté, il n'y a pas beaucoup de route, mais les gens, ils se portent sur des chaises pour aller à l'hôpital. Et puis, en arrivant soit sur la route qui passe pour les bains, il y a la Croix Rouge haïtienne, que beaucoup de personnes connaissent le numéro, on peut l'appeler pour venir chercher la personne. Sinon, si ce n'est pas disponible, les gens essaient par leurs moyens d'amener les gens à Médecins Sans Frontières ou à une autre centre pour se faire réhydrater. Mais c'est un peu difficile pour aller à l'hôpital avec quelqu'un qui se déshydrate, qui a la diarrhée, qui a le vomissement. C'est difficile parce qu'on n'a aucun centre de santé dans le quartier.
C'est ça, Grand Ravine est vraiment dans un endroit très encaissé, à flanc de montagne, et c'est difficile d'accéder au fin fond, je dirais, de ce bidonville. Et vous le dites, Nerline, malgré la violence, il y a une grande solidarité entre les habitants du quartier pour venir en aide à ceux qui sont atteints de choléra. Quelles sont les attentes de la population dans ce domaine? Qu'est-ce qu'elles aimeraient voir arriver comme aide?
Les eaux ne sont pas bonnes, et on devrait traiter l'eau. Et beaucoup de personnes qui passent nous voir, ils nous disent, mais comment on peut avoir de quoi pour traiter l'eau? Parce que nous, on n'a pas suffisamment de moyens pour assez de quoi pour traiter l'eau. Et c'est difficile aussi à trouver. Et puis d'autres choses, c'est parce qu'on demande aux gens de se laver les mains avec du savon et de l'eau. Ça leur demande d'avoir beaucoup plus d'eau. Et on sait que dans le quartier, les eaux sortent de très haut pour venir prendre de l'eau jusqu'à Grand Ravine, jusqu'à la fontaine. Et en plus, l'eau n'est pas potable. Acheter du savon tout le temps, ils n'ont même pas de quoi pour manger.
Dans ce contexte, Nerline, est-ce que vous avez le sentiment que les habitants de ce bidonville Grand Ravine vont aller voter dimanche?
Il y en a qui vont voter, mais je ne crois pas que ce soit la plus grande partie de la population qui vont voter, parce que avec l'insécurité qu'il y a dans le quartier déjà, on s'attend que le jour des élections, peut-être ça va encore être un peu plus grave, mais il y a des gens qui disent, de toute manière, moi je vais voter en tant que citoyen, mais il y en a d'autres qui disent, bon, voter ça ne peut pas changer grand-chose.
C'était Nerline Naguère, volontaire du mouvement ATD Carmonde, qui travaille dans le bidonville de Grand Ravine à Port-au-Prince, en Haïti. Docteur Brigitte Vassé, j'aimerais bien votre réaction par rapport à ce témoignage. Est-ce que ça correspond à ce que vous entendez avec les équipes d'MSF qui sont sur place? C'est-à-dire qu'en gros, les gens savent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas de quoi.
Oui, ça a évolué, ça a bien évolué. Au départ, les gens avaient très peur quand même. Hein. Ils ne connaissaient pas, personne n'avait vu de choléra, ni les gens malades, ni le personnel médical. Donc au départ, ça a été très très difficile. Maintenant, ça va mieux. Il y a encore, là, c'était une dame de Port-au-Prince, dans la campagne, dans le nord, là où, enfin, ça, le choléra a commencé dans l'Artibonite, hein, dans le centre de Haïti. Dans le nord, c'est encore très compliqué dans les petits villages, dans les collines, avec des gens comme à Port-au-Prince qui ne savent pas quoi faire, qui vont le long de la route Il y a quand même une peur qui existe encore sur cette maladie, sur la contamination possible. Et je trouve que c'est très important ce qu'elle a dit, la dame, sur le fait que la mère des enfants qui avait été soignée puisse expliquer que si on a un traitement assez simple, on peut en guérir. Quand on a été guéri, on n'est plus contaminé. Faut pas avoir peur des gens qui sortent des centres de traitement. Donc ça, je trouve que c'est très important. Et dans le Nord, c'est aussi ça. On va avoir les maires des villages avec des gens qui sont sortis des centres pour leur expliquer que c'est important d'avoir un centre à côté de... C'est pas grave d'avoir un centre à côté de sa maison. Au contraire, ça permettra d'avoir un traitement plus rapide.
Oui, c'est ça, parce que on dit tellement que c'est une maladie contagieuse que du coup il y a une peur de la contamination.
Mais c'est pas parce que c'est Haïti, hein. Partout quand il y a une nouvelle maladie qui arrive, on a peur. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épidémie de la fièvre de Marbourg en Angola, c'était ce même genre de peur, hein. Les gens ont peur. Donc faut comprendre ça et pas le rejeter. Donc faut expliquer, c'est ce que tout le monde essaye de faire. Et je pense qu'à Port-au-Prince, ça commence à bien passer. Il faut juste faire attention que ces salles de réhydratation orale, ça ne prévient... Enfin, il ne faut pas en prendre juste pour se dire on ne va pas avoir le choléra. Hein. C'est utile.
C'est un traitement.
On a certains signes. Mais ce n'est pas en avalant des salles de réhydratation orale qu'on va éviter d'avoir la maladie.
Non, ça permet simplement de se réhydrater, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le risque, c'est la
réhydratation.
Ça permet, quand
on a la maladie, de ne pas devenir un cas sévère.
Docteur Stéphane Jauré-Guibéry, comment on pose réellement un diagnostic de choléra? Parce que comment on ne confond pas ça avec une simple diarrhée?
Alors, c'est sûr qu'au tout début du diagnostic de l'épidémie, c'est essentiellement le prélèvement de sel, hein, chez un patient pour lequel les symptômes vont faire amener la supposition diagnostique. On fait un prélèvement de sel. Il y a des techniques rapides pour un pays en développement ou en situation sanitaire précaire qui permettent, sur des bandelettes, en fait, de faire le diagnostic de choléra. Après, bien sûr, il faut confirmer ce diagnostic par un laboratoire référencé afin de définir la souche responsable.
Docteur Brigitte Vassé, comment vous faites sur le terrain là avec Médecins Sans Frontières, où vous avez ouvert différents centres justement pour prendre en charge le plus rapidement possible les patients? Est-ce que vous faites un test systématiquement pour savoir si c'est le choléra?
Non, pas du tout. On
l'a pas
fait. Non, non. C'est pas indiqué.
Pas utile,
hein. L'urgence, c'est de traiter les gens. Donc, on l'a fait au tout début, vers le 19-20 octobre, quand ça a commencé. Il y a un laboratoire à Haïti qui l'a fait. On a la souche, on a la sensibilité. Mais on a aujourd'hui 20... Enfin, hier, on avait 27 centres de traitement, surtout Haïti. Mais encore une fois, ce qui manque, nous, c'est des centres de traitement avant tout pour les malades sévères. Ce qui manque, c'est ce qu'expliquait cette dame Nathalie Carmonde, c'est des centres de réhydratation orale avec des agents de santé qui sont capables de donner et d'expliquer le traitement simple avant que les gens deviennent sévères. Nous, on traite avant tout les gens, les cas sévères, donc avec réhydratation intraveineuse.
Mais il faudrait des centres de santé intermédiaires pour les cas moins sévères, c'est ça ce que vous êtes en train de...
Oui, c'est des... Enfin, on pense même que dans les écoles, à côté des écoles, à côté des églises, un agent de santé qu'on a formé pendant une heure, deux heures, a bien expliqué aux gens comment utiliser celle de réhydratation orale, ça éviterait énormément de cas sévères. Et le fait de les éviter, ça éviterait des morts. Aujourd'hui, je pense que contenir cette épidémie aujourd'hui, c'est pas la peine d'y penser. Ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait des gens qui en meurent. Et donc là, faut augmenter énormément le nombre de points. On appelle ça des points de sel de réhydratation, des points de réhydratation orale, un petit peu partout, comme dans le bidonville, comme dans les collines. Il y a pas besoin d'avoir
toute la question là, c'est que les agents de santé ne sont pas forcément formés à cette maladie. On sait qu'elle avait disparu depuis un siècle en Haïti,
oui.
Donc il y a un problème de formation.
Bien sûr, mais les infirmières, c'est pareil. On a embauché 500 infirmières la semaine dernière pour ces 27 centres, mais il a fallu les former parce qu'elles ne connaissez pas la prise en charge du choléra.
Les auditeurs sont nombreux à appeler, ils ont des questions à vous poser justement sur le choléra. Et on a Lamine qui nous appelle de Saint-Louis au Sénégal. Lamine, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, c'est pour demander si la vaccination contre le choléra est obligatoire. Parce qu'ici au Sénégal, on ne vaccine plus contre le choléra, mais on arrive où?
Alors, docteur Jauré-Guibéry,
oui, à traiter le choléra et à prévenir avec l'hygiène. Mais est-ce que si la vaccination est obligatoire maintenant.
Alors, docteur Jauré Guibéry.
Oui.
Est-ce qu'il existe une vaccination?
Alors oui, il existe une vaccination reconnue par l'OMS hein, puisqu'elle a été préqualifiée. Effectivement, elle existe. Maintenant, les épisodes derniers en fait d'épidémie de choléra ont montré malheureusement que cette vaccination, c'est un vaccin oral. Il faut plusieurs doses en fait hein, pour être immunisé. Et donc pour la gestion d'un épisode épidémique, globalement, ce vaccin ne sert pas à grand chose pour stopper une évolution épidémique. Après, à titre individuel, on peut effectivement décider de se vacciner contre le choléra, le vaccin est disponible en pharmacie, enfin on peut
l'acheter. Docteur Massé, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là-dessus? Quelles sont les préconisations d'MSF, vous qui êtes un peu présent dans des nombreux pays où il y a des épidémies de choléra?
Alors, quand il y a eu les premiers cas dans l'Artibonite, en Haïti, on a tout de suite essayé de voir la possibilité de vacciner certains endroits, pas là où était l'épidémie, mais aux alentours, donc on pensait au camp de Port-au-Prince. Mais la disponibilité en vaccin n'est pas suffisante. Il faut 3 semaines avant d'être protégé. Et vu la peur que les gens avaient, il était impossible de cibler certaines personnes pour la vaccination. Il fallait la proposer pour tout le monde. Or, le vaccin était indisponible.
Donc ça, vous n'avez pas pu faire. Mais autrement, c'est un vaccin qui fonctionne bien.
Alors, il y a un nouveau vaccin qui est mieux que celui qui est actuellement sur le marché, parce que celui qui est sur le marché, c'est un casse-tête logistique, il faut un demi-verre de solution, 2 à 1 semaine d'intervalle à mettre en chaîne de froid, donc c'est extrêmement
c'est compliqué.
Lourd.
Mais donc, docteur Jauré Guibéry, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de recherche dans ce domaine? On aurait pu espérer trouver un vaccin un peu plus simple d'utilisation, efficace, non?
Alors,
je rêve.
Bon, il y a toujours insuffisamment de recherches, c'est sûr, mais bon, disons que vous savez, il existe quand même des vaccins. Maintenant, leur intérêt, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur intérêt en situation épidémique comme celle-là n'est pas prouvé en fait, hein, parce qu'effectivement, le temps d'acquisition d'une protection efficace est un petit peu long, comme disait ma collègue, de l'ordre de 15 jours à 3 semaines. Il faut 2 prises, donc ça sous-entend une architecture de mise en place du vaccin qui est compliquée et dans une situation d'urgence sanitaire. En plus, dans un pays à faibles ressources et déstructuré par l'histoire qu'on lui connaît récente, ça rend extrêmement compliqué son utilisation. Et il n'est pas prouvé en plus que ce soit forcément un remède absolu en fait. Hein,
je voudrais vous
en
lire
termes
une...
de population.
Merci beaucoup, hein, Lamine, pour votre question. Je voudrais vous lire une question qui nous est arrivée par email d'Haïti. Vous imaginez bien qu'on a un peu des scrupules à appeler pour les réveiller. Il est 4h30 du matin. C'est Ronnie qui nous dit. Je vous écris donc de Cap Haïtien. J'aimerais savoir, en parlant de la question des porteurs sains, comment ça savoir s'ils sont contaminés ou non par le choléra. Alors d'abord qu'on comprenne un peu quelle est cette notion de porteur sain qui n'est pas forcément évidente à comprendre dans les maladies, docteur Jauré Guibéry.
Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, malheureusement, hein, nous ne sommes pas tous égaux devant les maladies et en fait, une personne exposée pourra soit ne rien faire ou faire une forme gravissime de la maladie. Ces déterminants sont multiples, hein, probablement liés à la souche bactérienne d'une part, mais aussi au terrain de la personne.
À l'état de santé de la personne.
Un certain nombre de facteurs qui peuvent influencer le développement de la maladie chez elle. Le choléra, globalement, comme on disait tout à l'heure, c'est à peu près un malade cliniquement parlant pour 9 porteurs sains, c'est-à-dire que la personne héberge dans son tube digestif la bactérie, va bien évidemment l'exprimer dans le milieu extérieur, hein, c'est bien ça le problème, mais la personne
donc
elle-même
peut contaminer les autres personnes.
Peut contaminer les sources d'eau, d'autres personnes éventuellement, surtout les sources d'eau et alimentaires, et du coup, par contre, la personne va parfaitement bien et ne le sait même pas elle-même, d'ailleurs.
Et donc, n'a pas moyen de le savoir, parce que c'est la question de René.
Alors, moyen de le savoir, ce serait faire un prélèvement de sel, chercher s'il y a présence de vibrions cholérés dans ces sels. Mais au sein des vibrions cholérés, il faudrait trouver, mettre en évidence précisément l'agent du vibrion choléré responsable du choléra.
Mais ça,
Parce que là aussi, il y a de très nombreuses sous-espèces.
Ça n'a pas d'intérêt à faire tant qu'on n'est pas malade. C'est ça en fait.
Non. L'intérêt, ce serait d'avoir une idée épidémiologique du nombre de porteurs sains pour un endroit donné. Mais enfin, ce serait tout à fait.
Docteur Jauré Guibéry et docteur Brigitte Vassé, on se retrouve dans 3 minutes hein, après les informations, toujours pour parler du choléra. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.